Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amis auditeurs, nous allons commencer aujourd'hui un nouveau livre dont le titre est « Fernandel m'a raconté », écrit par Raymond Castan aux éditions de la Table Ronde. Avant de lire la quatrième de couverture du livre, et pour ceux qui aujourd'hui trop jeunes peut-être pour avoir entendu sa voix, je veux lire un extrait de sa biographie, tiré de Wikipédia et d'autres textes. Écoutez plutôt. Fernand Contandin, dit Fernandel, est un acteur, humoriste, chanteur et réalisateur français, né le 8 mai 1903 à Marseille et mort le 26 février 1971 à Paris dans le 16e. Issu du music-hall durant plusieurs décennies, il représente l'une des grandes vedettes du cinéma français. Véritable champion du box-office, il parvient au cours de sa longue carrière à attirer plus de 200 millions de spectateurs dans les salles. Comique emblématique du cinéma d'avant et d'après la Seconde Guerre mondiale, il joue dans nombre de films devenus des classiques, parmi lesquels Angèle, Regain, Le Schpoutz, Topaz. Au même titre d'ailleurs que plusieurs de ses personnages récurrents à l'image de celui qui est dans la série des films des Don Camillo. Il tient également avec succès certains rôles plus dramatiques, notamment dans Naïs, puis La Vache et le Prisonnier en 1959, ou encore à la fin de sa vie, Heureux qui comme Ulysse. Chanteur populaire, il laisse une discographie importante parsemée là aussi de célèbres chansons faisant souvent partie de la bande originale de ses films ou de ses apparitions à la télévision ou à la radio, parmi lesquelles On m'appelle Simplet, Ignace, Félicie aussi ou encore le tango corse. Reconnaissable à ce qu'il désigne lui-même sa « gueule de cheval », il acquiert une popularité internationale, au point que le 3 mai 1968, le général de Gaulle déclare, lors d'une réception à l'Élysée, que cet acteur est le seul Français qui soit plus célèbre que lui dans le monde. Une deuxième lecture aussi donne quelques détails. À partir de 1968, Fernandel ralentit sa carrière au cinéma. En 1970, après « Heureux qui comme Ulysse » de Henri Colpi, il envisage de se mettre en retrait du cinéma en ne participant plus qu'à quelques films. Il souhaite alors surtout travailler sur un dernier film avec Marcel Pagnol, mais celui-ci ne se concrétisera pas. Fernandel est atteint d'un cancer généralisé. Mais les médecins et sa famille lui cachent la gravité de son état. On lui fait croire qu'il est atteint d'une pleurésie qu'il aurait attrapée lors du tournage de Don Camillo et ses contestataires. Le 26 février 1971, épuisé par la maladie, il meurt dans son somptueux appartement tout en marbre au 44 de l'avenue Foch à Paris. Il est inhumé au cimetière de Passy, le 1er mars 1971, après des obsèques célébrées en l'église Saint-Honoré d'Eylau. Dans un de ses derniers entretiens, Jean Gabin témoigne de la moralité de Fernandel et de sa fidélité dans tous les domaines, tant en amitié qu'en affaires. Son succès ne s'est jamais démenti et Marcel Pagnol dit de lui après sa mort « Il a été l'un des plus grands et des plus célèbres acteurs de notre temps » et l'on ne peut le comparer qu'à Charlie Chaplin. Fernandel, de son vrai nom Fernand-Joseph Désiré Contandin, dès son enfance s'amusait déjà sur scène avec son frère Marcel, avant de devenir le grand acteur que nous connaissons. Repéré par Marc Allégret, il a obtenu son premier rôle en 1931. Sa prestation remarquable l'a propulsé vers des rôles très importants. Nous allons maintenant commencer à lire la quatrième du livre pour nous parler de ce qui est écrit dedans. Il me parut évident de demander à Raymond Castan d'écrire ce « Fernandel m'a raconté ». Son « Marcel Pagnol m'a raconté » m'avait ravi. Et quelques mois plus tard, un soir au cours d'un dîner, Castan s'est mis à me raconter Fernandel, qu'il avait très bien connu comme journaliste, avant d'en devenir l'ami, puis, pendant plusieurs années, le scénariste et le dialoguiste. Il en parlait avec une si grande chaleur. Il en donnait une image à la fois si vivante, si originale et si juste. Il en rappelait les histoires avec une verve si amusante que je lui ai demandé aussitôt de se remettre à sa table de travail et de nous les écrire. J'ai dû insister beaucoup, revenir à la charge plusieurs fois avant qu'il ne l'accepte. Un jour, à bout d'arguments, je lui ai dit « Et puis, ça vous permettra de parler encore de Marcel Pagnol ?» Il n'a pas répondu, mais j'ai bien senti que cette fois, j'avais touché juste. Le lendemain, il me disait « Oui !» Voici donc le livre « Son Fernandel m'a raconté ». Ce n'est pas une suite de « Marcel Pagnol m'a raconté », mais on y retrouve les mêmes héros, la même tendresse, la même cocasserie, la même émotion, entre les pins, la même Méditerranée. En un mot, le même bonheur. Signé Roland Laudenbach. Fernandel m'a raconté de Raymond Castan. Chapitre 1er. La gloire. Il avait le visage le plus célèbre du monde. Le visage ? Non, la gueule. Ou mieux encore, la tronche. Gueule, ça va pour un tragédien. On dit « quelle gueule !» Mais Fernandel évoquait tout sauf la tragédie. Fernandel, c'était la joie de vivre, la réussite sans complexe, l'exubérance, la galéjade. Oui, c'est le vieux mot de notre argot lycéen des années 1930. C'est « tronche » qui convient. Il y a dans la classe de Topaz au premier acte un élève qui s'appelle Tronche Bobine, ce qui est au moins un pléonasme. D'ailleurs, il le disait lui-même, il disait « avec ma tronche ». Il disait aussi « il paraît qu'à ma naissance, ma marraine, quand elle m'a vue, elle n'a pu se retenir. Elle a crié « mon Dieu, qu'est-ce l'ail ? Mon Dieu, qu'il est laid !» C'est possible. Ce n'est pas gentil et ça ne veut rien dire. Beaucoup de marraines, en découvrant leur filleul nouveau-né, ont pensé, sans le dire, la même chose. Un journal avait publié cette manchette. L'aveu de Fernandel. Un jour, dit le grand comédien, je me suis regardé dans une glace. Et quand j'ai vu que j'étais si laid, j'ai pleuré. Ça non plus, même si c'est vrai, ça ne veut pas dire grand-chose. Beaucoup de jeunes premiers très beaux, de Pierre-Richard Wilm à Gérard Philippe, ont connu le même désespoir un soir où ils avaient l'âme un peu romantique. Et d'ailleurs, c'est faux. Fernandel n'était pas laid. Il avait une tronche, c'est tout. Une tronche célèbre dans tous les pays de la planète, sous tous les climats et sous toutes les latitudes, à tous les croisements de tous les parallèles et de tous les méridiens. De Gaulle l'avait reconnu officiellement. Le 3 mai 1968, il avait invité Fernandel à déjeuner à l'Élysée. « Et rien qu'avec du beau monde », racontait Fernandel aux amis le lendemain. Il y avait Edgar Faure, il y avait Henri Troya, il y avait Monsieur de France qui, d'abord, a un nom formidable et qui, en plus, ne doit pas être un imbécile puisque c'est lui qui a inventé la télévision en couleur. Quand De Gaulle a fait son entrée, il a dit aux autres « Je ne vous présente pas Monsieur Fernandel, c'est le seul Français qui soit dans le monde plus célèbre que moi. » Cette consécration présidentielle avait ravi Fernandel. Il était gaulliste, d'un gaullisme sentimental mais intransigeant. Fernandel soupirait quelquefois. « Remarquez, ma tronche, elle m'a valu beaucoup d'avantages et beaucoup de satisfaction. Et je lui en suis bien reconnaissant. Mais croyez-moi, il y a des jours où il faut se la porter. Alors, il racontait l'Apocalypse. À Berlin, une fois, au festival, j'ai voulu sortir de mon hôtel. 5 minutes après, c'était l'émeute. Il a fallu que la police vienne me dégager. Et faut voir comment. Ça rigole pas là-bas. Les chupos, comme ils disent. À Montréal, toute la soirée, la circulation a été bloquée par des gens qui voulaient me voir. À Lausanne, il m'a fallu rester pendant 3 heures, caché chez un marchand de tabac. À Copenhague, c'est bien simple, ils m'ont déshabillé. Ils m'ont tout arraché. J'en suis sortie indemne, mais tout nue. Ils avaient déchiré tous mes vêtements, tout, même le chapeau. Quelquefois, tout de même, cette popularité lui fait plaisir. Quand, avec un comédien de second plan, il arrive dans une ville où il vient tourner et qu'aussitôt la foule le reconnaît, les entoure, les assaille, il adore dire à son compagnon « Hé, dis donc, tu es drôlement connu, toi aussi !» Ce qui se passe quand Fernandel se promène dans la rue et que les gens le reconnaissent est d'ailleurs très différent de ce qui arrive avec les autres célébrités, avec Maurice Chevalier, Jean Gabin ou Léon Zitron par exemple. Ces derniers, les gens qui les reconnaissent, manifestent leur surprise en faisant des yeux ronds, rien de plus. Avec Fernandel, la surprise passée, aussitôt il sourit. D'un merveilleux sourire, franc, heureux. Le sourire du ravi de la crèche devant l'apparition. Ça n'arrive avec personne d'autre et c'est chaque fois pour Fernandel un grand bonheur. Nous nous promenons dans le parc entouré de hauts murs de sa villa, les Mille Roses, à Saint-Julien, dans la banlieue de Marseille. Il m'a reçu en famille. Il y a là Madame Fernandel. L'Arlésienne, personne ne la voit jamais. Il y a Josette, la fille aînée qui vient de se marier et qui est brune et belle comme Mireille elle-même. Il y a Jeannine, la cadette, et Franck qui vient d'avoir 10 ans. Tout autour, c'est la campagne provençale, les pins parasols et les térébintes, les rochers blancs et les cabanons du dimanche qui sentent bon la résine et le romarin. On vient là par le tram. L'arrêt facultatif s'appelle les Trois Lucs. Mais les Marseillais disent au Watman, « Je descends à Fernandel. » Moi, j'ai pris un taxi dont le chauffeur ressemblait à Mopi et parlait avec le même accent. Tout le long du trajet, il a roulé à gauche. Et quand je lui en ai fait l'observation, il m'a répondu, « Ici, monsieur, il n'y a pas la droite ni la gauche, il y a l'ombre. » Fernandel me montre le parc. 5 hectares de rosiers. 5 hectares? Les seuls au monde où je peux me promener tranquillement, sans entendre quelqu'un qui susaute derrière mon dos. « Eh bien, c'est Fernandel !» Ce n'est pas de la forfanterie, c'est la vérité. Il enchaîne. Depuis 10 ans, je n'ai jamais pu voir un seul film en entier. J'entre au cinéma dans le noir quand c'est commencé. J'en sors quand je vois que ça va finir. Même au football, je peux y aller. Ah ça, ça m'a fait gros sur le cœur parce que pour un Marseillais, ne pas pouvoir aller voir l'OM, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez? Chaque fois, c'est le branle-bas de combat. Quand il tourne un film, pour pouvoir déjeuner tranquille, il a renoncé une fois pour toutes à fréquenter les restaurants des studios. Son habilleuse, la brune Tina, qui foudroie les importuns d'un regard de panthère, lui prépare ses repas et les lui sert dans sa loge. Il en profite pour se faire faire les plats de son enfance, les pieds paquets, la stoque ficade, les beefsteaks à l'huile, les alouettes sans tête, la raie au beurre noir. Et il se régale. Il adore manger. Il fixe lui-même, et quelquefois 15 jours à l'avance, tous les menus que Tina devra lui préparer. Comme ça, il est sûr qu'elle n'oubliera aucun des plats dont il raffole. Fernandel commence alors à me raconter les tribulations du soldat de deuxième classe Contandin, rappelé à Marseille en septembre 1939, lors de la mobilisation générale. Le soldat de deuxième classe Contandin, vous l'avez deviné, c'est lui. Le deuxième classe Contandin. Il faut dire, expliquait-il, que dans les dernières années avant la guerre, on m'avait beaucoup vu sous l'uniforme. Dans les gaietés de l'escadron, dans le train de 8h47, dans l'Idoire, dans Vive la classe, les dégourdis de la 11e, le coq du régiment, la garnison amoureuse. Et surtout, dans Ignace. Ignace qui avait tout cassé, que j'avais créé à Marseille, qu'on avait repris à Paris, qu'on avait tourné, toute la France avait chanté. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Et voilà que je me retrouvais à Marseille, dans l'uniforme d'Ignace, bleu horizon, mais pas aux variétés cette fois, à la caserne. Ou plutôt, dans un ancien music hall du Prado qui s'appelait le Château des Fleurs, et que l'armée avait réquisitionné pour en faire une caserne. Cette fois, c'était pas pour rigoler, c'était pour faire la guerre. On avait un capitaine un peu pète-sec. Un matin, il convoque mon adjudant. « Qu'est-ce que j'apprends ? Que vous avez porté Contandin exempt de garde ? Qu'est-ce que ça signifie ?»« Mon capitaine, répond l'adjudant, je ne peux pas mettre Contandin dans une guérite devant la porte. Vous vous rendez compte, c'est Fernandel. »« Fernandel ? Ici, je ne connais pas, répond le pitaine. Ici, je connais Contandin. Et Contandin prend la garde comme tout le monde. » Une heure plus tard, je me retrouve le fusil à la bretelle, l'œil perdu dans le vague devant la grande entrée du dépôt. C'était 6h, l'heure de la sortie des bureaux. Il n'y avait pas 5 minutes que j'étais là, ça commence. Un petit attroupement se forme autour de moi. Mais c'est lui ?
Non, c'est pas lui.
Je te dis que c'est lui. Oh, Rosette, viens voir qui c'est qui est là.
Ah, que embego ? Fernandel ?
Ça va, Fernand ? Chante-nous en une. Au bout d'un quart d'heure, ils sont 500. Une heure après, 2000. La circulation est bloquée dans tout le quartier. Les tramways peuvent plus passer. Les agents sont débordés, bien sûr. On m'enlève de là. Le capitaine se fait engueuler. Et je suis convoquée par le commandant, très gentil, qui me dit « Vous serez mon chauffeur. » Quelques jours plus tard, il m'appelle. « Contandin. » Il me dit « Prenez la voiture, nous allons au stade. Je vais passer l'inspection des réservistes. » Je l'amène au stade, je me gare. Il me dit « Attendez-moi là. » Et il disparaît. Moi, je l'attends, toujours en costume d'Ignace au volant de l'attraction. Il se passe pas 5 minutes. Ça recommence. Les gens s'arrêtent. Hé, V, qui c'est ?
C'est lui ? C'est pas lui.
Je te dis que c'est sa tronche. Oh, Fernand, l'aspagalo capeo ? Une demi-heure après, ils sont encore 2000. Quand le commandant sort du stade, impossible pour lui de revenir jusqu'à la voiture. Il joue des bras, des coudes. Il m'appelle. Il finit par arriver, tout débraillé, le képi de travers. Bref, bon, il me dit, si vous restez là, on ne va pas en sortir. Mettez-vous derrière, faites-vous tout petit, essayez de passer inaperçu. C'est moi qui prends le volant. Et c'est ainsi que je suis rentrée à la caserne, moi, deuxième cul, installée à l'arrière comme un milord, dans une voiture conduite par un commandant à 4 galons.
Thank you.
Alors, on a décidé qu'on devait m'affecter à un service intérieur. Je me suis retrouvée plantant du commandant. Je passais mes journées installées à une table devant la porte de son bureau. Je recevais ses visiteurs, je les annonçais, je les faisais entrer. Un jour, le commandant me dit « Un collègue m'a prévenu en grand secret. Le colonel va sûrement venir vers midi pour passer une inspection surprise. » Et ce colonel, c'est pas du tout le genre rigolo. Alors, vous m'avez compris, je ne peux pas l'attendre devant la porte puisque, en principe, je ne sais pas qu'il vient. Mais à peine vous voyez sa voiture, vous me prévenez et vous avertissez tout le monde dans toutes les chambrées de se tenir prêt. À midi pile, je vois la voiture du colonel qui s'arrête devant la porte du PC. Je préviens en vitesse le commandant, j'alerte les autres, le colonel descend de sa voiture, arrive devant moi, je le salue, il me regarde, s'arrête, me regarde encore un moment, puis tout à trac. Mais vous êtes Fernandel ?
Oui, mon colonel.
Et qu'est-ce que vous foutez là ?
La guerre, mon colonel.
Alors, il commence à me parler cinéma. Il me dit qu'il a vu tous mes films, que François Ier est un chef-d'œuvre éternel. Il me re-raconte à moi la scène de la torture, le coup de la chèvre, le coup du Larousse. Il en riait encore. Il n'en finissait plus. Un vrai cinglé du cinéma. Pendant ce temps, derrière la porte de son bureau, mon commandant était au sans-coup. Il se demandait ce qui se passait, pourquoi le colonel n'arrivait pas. Il n'osait pas sortir. Il essayait bien d'espincher un peu par le trou de la serrure, mais il voyait rien. Et dans toutes les chambrées, c'était pareil. L'énervement gagnait de minute en minute. Le colonel continuait à m'interviewer. Et Rému, c'est vrai qu'il a si mauvais caractère?
Bof!
Et Pagnol, quel homme merveilleux ce doit être!
Ah, ça oui!
Et Jouvet, vous connaissez Jouvet? Au bout d'une demi-heure, il regarde sa montre.
Oh, nom de Dieu! Il me dit.
Déjà une heure? Mais j'ai pas vu passer le temps! L'inspection, ce sera pour une autre fois. Il me serre la main et il disparaît. Derrière moi, le commandant arrive en trombe, hors de lui, congestionné, à deux doigts de la crise cardiaque.
Où il est passé?
Qui, mon commandant?
Qui? Le colonel, pardi.
Il est reparti.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
On a parlé cinéma.
Pendant une heure?
Pendant une heure. Il n'en revenait pas, le commandant.
Ah, vous alors?
Il me disait, vous, si on gagne la guerre avec vous, ah! On ne l'a pas gagné la guerre, concluait Fernandel, mais je ne crois pas que je sois le seul responsable. Il racontait alors l'aventure arrivée à son ami Jean Noël, qui en septembre 1939, à peu près à la même époque, avait écrit à la générale Gamelin pour lui demander de présider la fête annuelle des lecteurs de son journal Benjamin. La générale avait répondu, une secrétaire, « Regrette de ne pouvoir répondre favorablement à votre aimable invitation. Elle est beaucoup trop occupée, mais son mari viendra. » Pour tous les Français, Fernandel était une connaissance familière. On lui demandait des conseils. « Cher monsieur, lui écrivait une bouchère de Pézenas, mon fils veut faire du cinéma et nous sommes bien embêtés. Est-ce que vous ne pourriez pas, par hasard, nous indiquer un studio dans la région pour qu'il puisse tous les soirs rentrer couché à la maison ?» Chaque année, pour Mardi Gras, c'était le masque Fernandel, en carton bouilli puis en plastique, qui se vendait le plus, bien avant celui de Mickey la souris ou de Donald le canard. Première place menacée seulement, et seulement pendant quelques années, par le masque du général de Gaulle. À Osaka, un trust de la matière plastique fabriquait plus de 200 objets différents, tous décorés de sa physionomie. Des Fernandel cure-pipe, cendrier, vide-poche, ouvre-lettres, tire-bouchon, coupe-papier, presse-papier, porte-buvard, porte-clé, porte-plume, porte-couteau, porte-manteau, fume-cigarette, corne à chaussures, gratte d'eau, encrier, canif à deux, trois, quatre, cinq ou six lames. Des Fernandelles en curé, en évêque, en archevêque, en cow-boy, en bagnard, en troufion bien sûr, et même en français tout simplement, c'est-à-dire coiffé d'un béret basque et portant à la main une baguette de pain. Un soir, à Aix-en-Provence, à l'hôtel du roi René, pour pouvoir discuter un peu en paix, nous avons dû nous réfugier dans le coin le plus reculé du bar américain. Une noce joyeuse a envahi les salons et l'un des témoins nous ayant découvert, tous les invités endimanchés, des novices jusqu'aux aïeuls, en passant par les petits pages, les parents, les garçons et les demoiselles d'honneur, les oncles, les tantes et les grandes-tantes vont défiler un par un jusqu'au dernier devant notre table pour pouvoir le regarder sous le nez avant de repartir, hilar et ravi. Ils s'en souviendront toute leur vie. Les noces, commente Fernandel Bonenfant, c'est pas grave. Ce qui est terrible, c'est les enterrements. Il me raconte alors le scandale dont il rougit encore et qu'il a provoqué bien malgré lui aux obsèques du grand Signoret. L'enterrement de Signoret. On tournait Regain avec Marcel Pagnol, commencé Fernandel, pas loin de Marseille. Un matin, on lit dans le Petit Marseillais que Signoret vient de mourir. Gabriel Signoret, qui était de Cavaillon, avait été à Marseille puis à Paris une très grande vedette du théâtre et du cinéma. Il avait joué Les Marchands de gloire, la première pièce de Marcel Pagnol. Il avait tourné en muet Roger Lahonte, la porteuse de pain, le père Goriot, puis, au parlant, dans Les Hommes nouveaux, le rôle du maréchal Lyautey, et dans Messieurs les ronds de cuir de Courteline, le personnage du père Soupe, le vieil employé de ministère complètement gâteux. Marcel Achat racontait qu'il avait vu Messieurs les ronds de cuir dans un cinéma d'Orléans où l'on avait joué quelques jours plus tôt Les Hommes nouveaux. En voyant le père Soupe se laver les pieds dans les lavabos du bureau, une dame avait dit derrière lui à son mari « Je le reconnais, c'est Lyautey !» On enterrait Signoret deux jours plus tard. Et on avait pensé que ce serait très bien si la troupe de Regain envoyait une délégation la représenter à la cérémonie. Marcel Pagnol me propose d'y aller avec lui. Et nous voici tous les deux installés à l'église, à quelques rangs derrière la famille. Et le service commence. Tout d'un coup, derrière moi, un petit bruit. Je me retourne pour voir ce que c'est. Et j'entends. « Je te l'avais dit, c'est Fernandel !» Moi, instinctivement, je fais « Chut !» À ce moment-là, quelqu'un du deuil, agenouillé devant moi, se retourne, me voit, ouvre des yeux ronds et se penche pour parler à l'oreille du type qui était à côté de lui, qui fait pareil. Il se retourne, me voit, avertit un troisième, et ça continue. Bientôt, c'est tout le deuil qui me regarde. L'acolyte qui balançait l'encensoir, il se demande ce qui arrive. Il regarde vers moi. Il me reconnaît. Il pousse du coude son petit copain qui porte les burettes. Et tous les deux commencent à rigoler, la main sur la bouche pour qu'on ne les entende pas. Moi, pour les calmer, je leur fais les gros yeux. Le bide total. Ils éclatent de rire. Le curé furieux lève les yeux de son livre. Il me voit à son tour. Il allait faire « chut », mais ça lui coupe le sifflet. Alors tout le monde s'y met. Tout le monde oublie ce pauvre Signoret. Tout le monde me regarde en se tenant les côtes. Les enfants de cœur, les croque-morts, le deuil, la famille, les amis, les curieux. C'est le délire. Moi, je ne sais plus quoi faire. Je prends l'air affligé, on rigole. Je regarde par terre, on se tord. Je regarde en l'air, on se tape sur les cuisses. Et tout d'un coup, Pagnol, à côté de moi, qui faisait des efforts surhumains pour garder son sérieux, ce qui lui faisait faire des grimaces terribles, craque à son tour. Il s'esclaffe. Alors j'ai fui lâchement sous la rigolade générale, en jurant bien qu'on ne m'y reprendrait plus. Dans la voiture qui nous ramenait à la Treille, Pagnol essayait de me consoler. « Ce pauvre signoré doit être content, » il me disait. « C'est rare qu'on pleure comme ça à un enterrement. » On pleurait de rire, d'accord, mais c'était quand même des vraies larmes. Tout ça n'empêche pas qu'un jour, concluait Fernandel, avec le même humour, j'avais été invité à dîner à l'ambassade de France à Rome. Et je me suis trouvé assis à côté d'une dame charmante qui, après une demi-heure de conversation, m'a demandé « Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas très bien compris votre nom quand on nous a présenté. Vous travaillez à l'ambassade ?» Qu'avait-elle donc d'extraordinaire, cette tronche de Fernandel ? Elle faisait rire. Ce qui est toujours une espèce de miracle, rire aux éclats. Tout le monde, les grands et les petits, les riches et les pauvres, les esthètes et les béotiens, les analphabètes et les agrégés de l'université. Elle faisait rire. Il serait plus juste de dire qu'il faisait rire avec. Certes, il avait cette bouche chevaline, ses yeux si tendres et si rieurs, ses grosses lèvres gourmandes, ses traits d'une mobilité étonnante qui lui permettaient de marquer dans toutes les expressions toutes les nuances. Mais il jouait du tout en virtuose. Avec sa tronche, le bon Dieu lui avait donné un Stradivarius. Mais lui, c'était Paganini. Chapitre 2. La solitude. Je crois pouvoir dire que j'ai été l'ami de Fernandel. La preuve, c'est qu'une fois au moins, nous avons été fâchés. Oh, pas longtemps. Ce n'était rien de bien grave. Nous nous sommes réconciliés presque tout de suite. Pour être encore plus liés qu'avant. C'est un jeu que nous pratiquons volontiers entre méridionaux, mais bien sûr, seulement entre amis. Entendons-nous. Je n'ai jamais vécu avec Fernandel dans la même intimité qu'avec Marcel Pagnol. Je n'ai jamais connu avec lui la même complicité, la même entente profonde. Je n'ai jamais fait partie de la famille. D'ailleurs, chez Fernandel, à une exception près, le gentil Manuel Gary, personne ne faisait partie de la famille, sauf la famille. Fernandel lui-même veillait jalousement au respect de ce principe. Le mur qu'il avait dressé pour protéger sa vie privée et celle des siens était à peu près infranchissable. Et dans les deux sens, on n'entrait pas chez les Fernandel, et les Fernandel ne sortaient pas. Franck, mis à part, lorsqu'il eut choisi de faire le métier de son père, on ne voyait aucun d'entre eux dans les studios, sur les plateaux, aux premières ou dans les restaurants d'acteurs que Fernandel appelait comiquement les raffineries, parce que les dîneurs, disait-il, y passent leur temps à casser du sucre sur le dos des copains. C'est vrai que peu de gens connaissaient Madame Fernandel. Un jour, racontait Fernandel, Jean Gabin arrive au bureau de la Gaffer où nous avions rendez-vous. Il était furibard et en même temps, il riait aux larmes. Je lui demande ce qui lui arrive. Il me répond, « C'est à cause de toi. Je me suis fait piéger comme une vraie pomme. » Il avait vu à la devanture d'un kiosque à journaux sur une affichette pour un hebdomadaire à sensation. Exclusif, la femme cachée de Fernandel. J'achète le canard, avoue Gabin. J'aurais pas été mécontent de te mettre un peu en boîte. Je cherche la photo de cette femme que tu nous caches. Et qu'est-ce que je trouve en dernière page? Une photo de ta femme, d'Henriette, faisant des achats dans ton quartier. Ah! Il s'était bien fait couillonner, le père Gabin. Quand Fernandel devait aller à un gala pour la sortie d'un de ses films, c'est sa fille Josette qui l'accompagnait, plus rarement Jeannine. Mais de toute façon, il n'aimait pas voir paraître les siens. C'est une attitude fréquente chez les comiques. On ne connaissait pas non plus la famille de Bourvil, ni celle de Fernand Reynaud. Et pour beaucoup de raisons. D'abord, parce qu'ils ne se sont lancés dans ce métier presque toujours contre la volonté de leurs parents. Et ils en ont gardé une espèce de honte freudienne. Eux-mêmes, d'ailleurs, ne souhaitent pas que leurs enfants suivent leurs traces. Fernandel aurait aimé faire de son fils Franck un notaire. Ensuite, parce qu'ils n'ont jamais cessé de souffrir de ce manque de considération dont ils sont toujours victimes, même, pour ne pas dire surtout, quand ils sont devenus des vedettes. Il y a, dit un personnage du Spunz, Charlot qui reçoit des coups de pied au cul et M. Chaplin qui, lui, donne des gifles. Hélas, les imbéciles ne voient souvent chez les comiques que la face Charlot, et les comiques veulent protéger les leurs de cette malédiction. Presque tous les amis de Fernandel étaient des amis du métier. D'abord, parce qu'il consacrait au travail une énorme partie de son temps. On sait quelle amitié orageuse l'avait lié à Marcel Pagnol, quelle amitié passionnée il avait eue pour Rému, son aîné, le comédien qu'il admirait le plus et qu'il jalousait un peu. Quelle amitié étonnante il a partagée avec Jean Gabin dans ses dernières années. Les amis de Fernandel, c'était aussi Christian Jacques, avec qui il avait tourné un de la Légion, Josette, les dégourdis de la 11e, et surtout François Ier, en 1936, et qu'il avait retrouvé pour le Don Camillo et les contestataires que la maladie vint interrompre. Tino Rossi, avec qui il avait vécu joyeusement les péripéties de l'épopée Pagnol. Gilles Grangier, le solide. Andrex, l'ami de la petite enfance qu'il connaît depuis l'école communale de la rue Alexandre Coppello, avec qui ils se sont retrouvés dans les concours de chanteurs amateurs, puis sur les scènes du music-hall, et qu'il a fait débuter au cinéma. C'est Fernandel qui a présenté Andrex à Pagnol pour le rôle du mauvais garçon d'Angèle, Henri Verneuil, son metteur en scène du Fruit défendu, de la table au crevet et de la vache et le prisonnier, qu'il a découvert lancé et à l'égard de qui il développa toute sa vie un certain périconisme. Il me doit tout, je ne l'oublierai pas. Fernandel nourrit pour Daniel Secaldi une tendresse secrète. Il aime bien Yvan Audouard d'Arles, dont il a tourné Cocagne et dont il a enregistré les si jolis contes de Provence. À Marseille, son ami numéro un est M. Franck, le grand directeur du Vieil Alcazar et des variétés, chez qui il a remporté un si grand nombre de si grands succès. C'est M. Franck qu'il a choisi pour être le parrain de son fils, né pendant qu'il jouait chez lui Ignace. Franck s'appelle d'ailleurs Franck Gérard Ignace. Moi-même, c'est comme journaliste que j'ai rencontré Fernandel pour la première fois. Il se préparait à tourner Meurtre. Il était très inquiet. C'était la première fois qu'il allait jouer le rôle d'un assassin. Nous avons sympathisé. Nous nous sommes revus. Il est venu voir jouer Fernand Reynaud dans Auguste aux nouveautés. Et puis, il m'a demandé de lui écrire des dialogues, des scénarios. Le premier film de Franck, La cuisine au beurre, son dernier grand succès. C'est ainsi qu'est né et que s'est fortifiée notre amitié. Au cours de nos séances de travail à Paris, à Rome, à Marseille, aux Mille Roses ou à Carrie, à Cap-Verne, surtout au cours des repas qui suivaient ces séances. Dans ce premier épisode du livre, Fernandel m'a raconté, écrit par Raymond Castan, nous venons de faire un grand retour en arrière. Peut-être moins connu des gens d'aujourd'hui que d'autres acteurs actuels, la personne de Fernandel, de son vrai nom Fernand Joseph Désiré Contandin, dit Fernandel, reste incontournable, tant au point de vue cinématographique que dans le registre des chanteurs populaires. La suite de notre lecture va rappeler à certains de bons souvenirs d'autrefois. Et pour ceux qui le connaissent moins, j'espère vous donner par cette lecture envie d'en savoir plus sur cet homme remarquable qui a fait rire et pleurer nos anciens. À bientôt, chers auditeurs et amis. Dans la suite de nos lectures, retrouvez-moi sur Radio Alliance Plus. Écoutez-moi en direct sur notre antenne, les mardis et mercredis à 21h30. ou retrouvez-moi sur le site radioalliance+.fr.